cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jaudard, le 15 novembre 89.
Alors ça revient un peu en arrière par rapport à ce qu'on a dit. Donc mettez ça en nota bene. Ayez toujours, hein, je crois du reste, quand vous prenez des notes, vous avez le cours qui continue. Puis vous avez des questions entre deux. Des nota bene. Parce que ça revient en arrière, ça revient. On fait de l'aller et du retour. Le flux, le reflux. L'aspect critique et l'aspect positif. Merci beaucoup. Peut-on préciser du point de vue critique ce qu'est cette expérience interne que nous avons de l'immanence de nos opérations vitales? Pourquoi cette immanence réclame-t-elle de poser des puissances intermédiaires entre l'âme et les opérations? Donc, du point de vue critique, nous avons l'expérience d'une opération immanente quand nous aimons, quand nous connaissons. Nous savons bien, par exemple, mais c'est très simple, que le regard des autres sur nous n'est pas le même que le regard que nous avons sur nous. D'où la tentation de dire « espèce d'imbécile, tu ne me connais pas ». Et on a cet immense avantage, c'est que les autres ne nous connaissent jamais de l'intérieur, sauf par l'amitié. Ils commencent à nous connaître de l'intérieur. Mais jamais totalement. Il n'y a que Dieu. Dieu me connaît plus que je ne connais. Vous voyez, alors là, c'est vraiment la critique au sens ultime, jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, au point de vue philosophique, je peux dire que Dieu me connaît mieux que je me connais. Parce que moi, il y a des temps de repli, hein, des soubassements. Je sais très bien qu'il y a toujours un tout petit peu des a priori affectifs. Et je comprends parfaitement comment je ne peux jamais juger un autre sur les apparences. Mais cependant, je vis dans la vie commune. Et dans la vie commune, quand même, hein, on ne demande pas à certains de faire des actes tels qu'ils scandalisent tout le temps. Mon vieux, tu scandalises les autres. Fais attention, tu ne vois pas. Donc, vous voyez, je peux très bien arriver à un point de vue purement psychologique et humain et moral, distinguer ce que je fais et ce que les autres voient. Et toute la, vous voyez, la grandeur de la vie commune, parce que c'est la grandeur de la vie commune, il ne faut pas voir uniquement les défauts de la vie commune. La grandeur de la vie commune, ce qui fait que je passe du stade animal, instinctif, à un stade humain, aristotélique, le solitaire, où il est Dieu, où est un animal. Les gens qui ont une peine énorme à vivre la vie commune, ordinairement, ils ne sont pas Dieu. Ils sont plutôt comme des petits animaux instinctifs. Ils sont habitués à vivre selon leur instinct. Après tout, laissez-moi tranquille. Je vis selon mon instinct. Ils ont une peine énorme à suivre un règlement. Ils ont une peine énorme à garder le silence. Ouais, c'est une maîtrise de soi de garder le silence. Donc on a dépassé le stade animal. L'animal, il garde pas le silence. Regardez le petit chien, il est en train de mordre un os et vous venez le déranger, il aboie. Espèce d'animal, il garde le silence. On doit garder le silence en vie commune. Il ne sait pas ce que c'est. Et il y a des petits animaux comme ça, en vie commune. Ils aboient tout le temps. Ils ne savent pas ce que c'est de garder le silence. Là, ils aboient à leur manière. Nous, nous aboyons en parlant. C'est un aboiement, le parler. On dit nos volontés. Vous voyez, la vie commune humanise nos instincts. Passage de l'instinct à une vie volontaire. C'est vrai. Il faut accepter de dire je ne parlerai pas dans telle ou telle circonstance. C'est pas commode. Parce que ça revient au galop, ça, vous savez. après un cours qui nous a posé des tas de problèmes, qui nous a scandalisés, qui nous a mis au contraire dans un état merveilleux, c'est étonnant. On a envie de le dire, quoi. Et savoir si l'autre a pensé comme ça. Après la chute du mur de Berlin, on a envie quand même de le dire. C'est étonnant. Qu'est-ce que tu penses avant ça? Qu'est-ce qu'il y a? On a envie de dire ça. Oui, tout de suite. Oui, allez, on a besoin de communiquer. Ou encore, on veut communiquer. Oui, on communique tout de suite. Alors, à ce moment-là, on ne domine pas son instinct. L'instinct de communication. L'instinct de communication se situe à quel niveau? Au niveau animal? Au niveau humain? S'il se situe au niveau humain, on respecte ce que c'est que notre vie commune. Et notre vie commune demande le silence. Pourquoi? Pas pour le plaisir du silence, mais pour intérioriser plus. Nous voulons remonter vado ad padrem. La vie commune, c'est le vado ad padrem. Redécouvrir le retour vers le Père. À la place de le communiquer tout de suite au petit animal qui est à côté de nous, ou au gros animal qui est au côté de nous, on veut le communiquer au Père. C'est un petit animal merveilleux. C'est un lévrier d'une finesse, celui qui est à côté de moi. Alors, quand même, il doit dire les choses bien. Non, vado ad padrem. Oui, on doit comprendre ça. C'est pas commode. De découvrir les degrés d'intériorité. Et celui qui est contemplatif a une intériorité parfaite. Alors là, c'est le silence. Le contemplatif veut le silence. Ça lui coûte de parler. Il le fait par devoir. Quand il doit le faire. Il doit faire des cours, il doit parler. Il doit prêcher, il doit parler. Autrement, il viendrait immédiatement dans le silence. Parce que le silence, c'est être en face de Dieu. Et c'est cette intériorité, ça s'éduque. Et il y a beaucoup de demeures dans l'intériorité. C'est pas une seule demeure. Alors, du point de vue critique, ce qu'est cette expérience interne, c'est que nous sommes conscients de ce que nous posons comme acte. Nous sommes conscients, et ces actes sont volontaires et non pas instinctifs. Nous ne voulons pas rester au stade animal. Nous voulons humaniser notre petite oasis. Humaniser notre petite oasis, c'est-à-dire que tous les actes que nous posons soient des actes volontaires, humains, finalisés par la contemplation, ordonnés vers ce retour vers le Père, pour nous, puisque notre vie commune, c'est une vie commune de ceux qui apprennent à être des contemplatifs. C'est pas la vie commune du camarade. Dans la camaraderie, la vie commune existe, pas de silence. Demander un silence dans un lycée, après le cours plus ou moins silencieux, la récréation, c'est la fusée de bon tous les ans. Complètement idiot. C'est des jeunes chiens, moi, c'est toujours regarde comme ça. Ça m'intéresse de temps en temps de voir la manière dont les garçons de 15-16 ans sortent d'un cours d'une heure ou de trois quarts d'heure. Ça, ben c'est des jeunes chiens. Il n'y a rien d'humain. Absolument, c'est pas humain, ça. Si c'était humain, ils seraient peut-être dans la joie de sortir, par se communiquer, par se détendre. Mais c'est fait avec un éclat instinctif. C'est très, très curieux, ça. Et de plus en plus, c'est comme ça. On n'éduque plus. On laisse le jeune chien. C'est un chien qui s'est jeté dans l'eau. Et qui sort de l'eau et qui se remue. C'est très très curieux à voir. C'est extraordinaire. C'est pas dans tous les sens. Faut pas se mettre trop près. Alors, il faut découvrir cette intériorité qui s'acquiert. On devient un homme intérieur. On devient un homme intérieur. On est responsable du degré de notre intériorité. On est responsable en face de Dieu, en face de nos frères. degré d'intériorité. Et dans un monde où tout va du côté de l'extérieur, mais tout extériorise dans notre monde aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin toujours d'entendre de la musique. Tout le temps. On est dans le TGV.
S'aiment, ils essaient d'éviter le silence, d'éviter le bruit.
de silence extérieur, ça se découvre tout de suite. Parce que les bruits viennent de l'extérieur. Alors on peut dire, il faut s'écarter suffisamment de l'autoroute pour avoir du silence. Je ne sais pas à quelle distance, mais ça a été calculé. Pour ne plus entendre les bruits de l'autoroute. Donc ne construisez pas un couvent à telle distance. Construisez un couvent à telle distance d'une autoroute pour rester dans le silence. Intérieurement, c'est beaucoup plus difficile de découvrir toutes les zones de silence qui sont dans de toutes les zones d'intériorité. Mais c'est nécessaire d'arriver à discerner l'état passionnel qui est en nous, l'état spirituel, la connaissance sensible, la connaissance imaginative, la connaissance de l'intelligence. On doit pouvoir tous faire ce discernement. La philosophie est faite pour qu'on puisse faire ce discernement. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire à notre vie divine. Parce que la grâce s'empare différemment de l'affectivité volontaire, de l'affectivité imaginative, de l'affectivité passionnelle. Ça s'empare différemment. C'est pas de la même façon. Et donc c'est nécessaire de commencer. Ça met du temps. Une année, deux années, trois années de philosophie. Au bout de la troisième année de philosophie, on doit pouvoir faire le discernement. Et on doit continuer de le faire. Hein. Parce qu'on fait tout le temps, toute sa vie, on fait de la philosophie. Toute sa vie. Et une des choses que les jeunes ont le plus besoin, vous verrez ça ensuite dans la prédication. C'est que dans notre prédication, on est témoin du Christ, on puisse de temps en temps leur dire maintenant, on est là pour vous aider à découvrir votre intériorité, celle que vous portez, et que la plupart du temps, vous ne vous intéressez plus à ça. Donc voyez, cette connaissance de l'intériorité, elle a des niveaux différents. Et parce qu'elle a des niveaux différents, il faut nécessairement poser des puissances qui sont à la source. Puisque l'âme est une et il y a divers degrés d'intériorité. Il faut découvrir ces différents degrés d'intériorité. Et ces différents degrés d'intériorité me permettent de poser les différents degrés de vie. C'est par l'intériorité, toujours, toujours, la philosophie du vivant. L'intériorité joue un rôle. Mais je ne m'arrête pas à cette intériorité. Cette intériorité me fait poser des questions qui m'obligent de rejoindre le vivant existant. Le vivant existant, c'est moi. C'est évident. En premier lieu, c'est ça que vous avez l'avantage en philosophie du vivant, c'est que vous êtes toujours en première loge. C'est pour ça qu'on aime beaucoup la philosophie du vivant. Parce que c'est nous. C'est pas votre voisin. En philosophie de la matière, c'est votre voisin. Première loge. Et au plan vue métaphysique, les deux. Vous voyez, on pourrait dire ça. Si on regarde attentivement en philosophie de la matière, c'est l'autre. Première loge. Philosophie du vivant. C'est moi, mon intériorité. Et de l'intériorité, je regarde l'autre, ou moi, mais en tant qu'existant. Et en philosophie première, les deux, c'est l'autre et l'intériorité. Et la synthèse se fera dans le je suis, ce que nous verrons. J'existe. Philosophie avance, plus l'intériorité se Seconde question. Saint Thomas explique, c'est encore nota bene, hein, c'est une question extrinsèque par rapport à ce que nous disons, mais qui est importante. Saint Thomas explique que le corps est formé à partir des quatre éléments. Donc vous comprenez, après l'induction de l'âme, où il induit l'âme comme substance, je distingue l'âme du corps. Au plan philosophique, je parle du corps en tant que le corps est en puissance l'âme. Le corps est la capacité de recevoir l'âme.
Saint Thomas. principe selon la forme. Donc l'âme a une qualité très unique, principe de vie. Je vois donc que le corps humain a cette capacité de recevoir l'âme que s'il est disposé. Un corps est disposé à recevoir l'âme. Une disposition en vue de, il est orienté. Le corps n'est pas pure puissance. C'est une puissance qualitative, qualifiée, ordonnée. Comme l'âme est principe et que l'âme est source d'une très grande complexité et d'une très grande organisation. Il faut que dans le corps, il y ait déjà toutes ces dispositions. Alors, je regarde ce qu'il y a de fondamental dans l'âme, dans le corps. Les quatre éléments. Pourquoi ? Parce que le corps fait partie du monde physique, de l'univers physique. Le corps est dans l'univers physique. Il est une partie de l'univers physique. Je ne peux pas le nier, ça. Je suis dépendant de la chaleur et du froid. Je sens ça. Je suis dépendant du printemps, de l'hiver. Ou je suis dépendant de la zone tropicale, où de fait, printemps, hiver, chevauche. C'est un été permanent. Mais toujours avec la chaleur. Et c'est vrai, le corps est dépendant de ça. Le corps est différent si on est né sous tel ou tel tropique. Ou si on est né en climat tempéré. Ou si on est né au pôle nord. Regardez les Estimaux, c'est assez particulier. Il y a un corps adapté à ça. Et si quelqu'un qui est dans le climat tropical va là, difficile. D'autre part, on sait, et les prisonniers le disaient à la fin de la guerre, c'était leur réflexion constante. On a vécu ce qu'un animal n'aurait jamais vécu. Ça voulait dire, le corps humain a des capacités d'endurance plus grandes que le corps de n'importe quel autre animal. Il a des capacités d'adaptation bien plus grandes. Et c'est vrai, quand je regarde le corps du tout petit enfant jusqu'au corps du vieillard, quelle capacité d'adaptation. Le corps humain est bien plus adaptable que le corps de l'éléphant. Le corps de l'éléphant, je sais bien, il est plus lourd, donc c'est plus difficile à l'adapter. C'est quand même quelque chose, le corps d'un éléphant, le corps d'un hippopotame. C'est encore plus majestueux. Je dis pas plus beau, mais plus majestueux. Eh bien, ils sont moins adaptables que le corps de l'homme. C'est très curieux, hein, l'adaptation du corps de l'homme. Alors, et je crois que ça fait partie de la qualité du corps de l'homme, ça. Au plan philosophique, on arrive tout de suite à ça. Il est adapté à une âme qui est à la fois végétative et une âme spirituelle. Pas commode, hein, de faire que ce corps soit le corps d'une âme spirituelle. Vous voyez, au troisième étage, on dit au corps, j'ai plus besoin de toi. Je pense sans toi. Oh oui, il y a toujours un petit cordon ombilical, mais, je suis une âme séparée. Et cependant, tous les jours, je descends au sous-sol, la cuisine. Je me nourris. C'est extraordinaire, tout ce qu'il y a dans le corps humain, comme disposition. Et le biologiste regarde le corps de l'homme uniquement au niveau de la vie végétative. Et il croit connaître le corps de l'homme. Pas du tout. Il connaît un aspect du corps de l'homme.
le sous-sol, l'aspect de la cuisine, l'aspect de la nourriture. Le psychologue regarde le corps humain du côté psychique. C'est déjà un peu plus noble. Et le philosophe regarde le corps de l'homme en tant qu'il est capable de recevoir une âme séparée. Séparée dans son activité spirituelle. C'est encore autre chose. Vous voyez, c'est le regard différent du philosophe. Les degrés de vie. Et j'ai chaque fois un regard différent sur le corps de l'homme. Et je dois maintenir cette diversité. Donc, je descends au sous-sol. Au sous-sol, le corps est même en deçà du sous-sol. Parce que là, ce serait la vie végétative. En deçà, les quatre éléments qui font que le corps de l'homme est partie de l'univers. C'est vrai. Je suis partie de l'univers. Puisque je suis sensible au froid et au chaud. Il y a du soleil. Il y a du brouillard. Je n'ai pas vu le soleil de la journée. Et je vivrai comme ça pendant des mois et des mois. Mon corps deviendra le corps d'une petite plante qui vit sous terre. La salade qu'on fait sous terre, elle a une couleur particulière. Spécial. J'ai les quatre éléments en moi. C'est vrai. Le corps est formé à partir des quatre éléments. Et ce corps, alors, faut-il considérer cela comme de l'archéologie ou de la poésie? Non. Un regard philosophique. Le philosophe remonte à la source. Quelle est la source du corps? Les quatre éléments. Et ça reste vrai. Ces quatre éléments. Vous avez en vous de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Là, il y en a chez qui le feu prédomine. Il y en a chez qui l'air prédomine. Il y en a chez qui l'eau prédomine. Il y en a chez qui la terre prédomine. Espèce de terreux. Espèce d'animal aquatique. Ah, tu es une anguille. Oh, ça se voit bien. Tu n'es bien que dans les eaux comme ça. Oh là là. Ah, toi, oh, tu es aérien. À tes heures. Mais un peu trop girouette. Le terreux, il n'est pas girouette du tout. Oh là 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 là. Il est quelquefois dans une crevasse, dans une ornière, il n'en sort pas. Je t'ai vu il y a 40 ans et tu es toujours dans la même ornière. Tu n'en es pas sorti. Tu es là. C'est ça le terreux. Et puis il y a des gens qui sont. Il y a du feu. Il y a du feu. Et quand on dit dans l'Apocalypse que les yeux du Christ, le regard du Christ, c'est comme une flamme de feu. Oh. Le Christ était le corps où il y avait le plus de feu parmi tous les corps humains. Dans sa racine formée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est du feu. Il y avait le plus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est le corps le plus dans lequel l'équilibre, l'harmonie des quatre éléments, il y avait le feu qui dominait. En Marie, il y avait un peu moins de feu. Un peu moins de feu que dans le corps du Christ. Le corps du Christ est plus parfait que celui de sa mère. Là, il y a une évolution. Mais cette évolution, elle est sous l'action de l'Esprit Saint. C'est très vrai. Marie est des sources vitales du corps du Christ. Des sources vitales du corps du Christ. D'une manière telle que le corps du Christ est plus parfait que le sien. Et Marie, en regardant le corps du Christ, elle regardait un corps plus parfait que le sien, capable
toutes les mères. Vous pouvez pas dire à votre mère, je suis encore plus parfait que le tien. Donc je te localise. Vous pouvez pas dire ça. Le Christ aurait pu le dire, il l'a jamais dit. Parce que c'était le corps le plus parfait. C'est pour ça qu'il est roi au niveau du corps, roi de l'univers, le plus parfait des corps. Et donc l'harmonie des éléments dans le Christ, et c'est pas poétique, c'est réel, c'est physique ça. Notre être physique dépend de ça. Chaud, froid, léger, lourd, tout ça est dedans. Et le feu donne cet élément. Et ça se manifeste par le regard. Platon dit que le feu sort du regard. C'est un peu symbolique ça. Hein? C'est évident que le feu. Mais le regard exprime le feu qui est en nous. Il y a des regards ternes, terreux. Il y a des regards brûlants. Le feu sort. Vous voyez, c'est quand même très curieux ça. C'est ce qu'il y a de juste. Hein, regardez la vision, l'aspect morphologique du corps humain. L'aspect morphologique du corps humain, c'est l'aspect de la terre. On a été façonné comme le potier façonne la terre. On a été façonné par Dieu. Alors ça, c'est un langage métaphorique, un langage symbolique qui exprime quelque chose de réel. Donc ça, c'est au-delà du philosophe, hein. Mais c'est le philosophe qui se sert des traditions religieuses pour confirmer que le corps humain implique les quatre éléments. Si on n'appliquait pas les quatre éléments, cette parole de l'écriture n'aurait plus aucun sens. On est terre, tu es poussière, tu retourneras poussière. La liturgie chrétienne. Donc c'est... Et le philosophe s'en sert pour comprendre ce que c'est que le corps humain. Alors, ou alors, est-ce un regard qualitatif? C'est le regard qualitatif fondamental sur le corps humain. Le corps humain implique les quatre éléments. Le corps humain implique les quatre éléments. Et le corps humain y avoir la prédominance du feu chez certains. Certains êtres sont prédestinés à être feu. Sûrement que le prophète, hein, le prophète Élie était du feu. Mais le corps du feu, c'est bien plus. Et c'est pour ça que dans la gloire, on te... Et c'est très curieux que Saint Jean, dans son évangile, souligne toujours le regard du Christ. Et dans l'Apocalypse, on retrouve ce regard qualitatif. Alors, je ne sais pas ce que sera le feu glorieux. Mais ce serait intéressant. Le feu annonce la gloire. Annonce, pas plus. Annonce la gloire. Donc, ou alors, est-ce un regard qualitatif sur le corps qui échappe complètement à la science moderne? C'est très vrai que l'aspect qualitatif du feu, l'aspect qualitatif de l'eau, de l'air, de l'eau et de la terre échappe complètement à la science moderne. Notre corps est lié aux quatre éléments et aux qualités des quatre éléments. Et le feu montre qu'il y a en nous quelque chose, comme diraient les anciens, de la quintessence. On est apparenté au corps céleste pour les anciens. Pour nous, on apporte tout simplement à un corps qui est appelé à être au service de la lumière, de l'intelligence, qui est la lumière. Et si on est chrétien, un corps qui est appelé à être un jour glorifié. Donc il y a en nous une attente de la gloire. Et cette attente de la gloire, elle se manifeste surtout par le feu. Ça, c'est sûr. Elle se manifeste jusqu'à la terre. Faut pas couper. Et ça, c'est fondamental. Et c'est réel. C'est tout simplement l'étude philosophique du corps. Et l'étude philosophique du corps humain assume tout le monde physique et le dépasse. Alors, ce qu'il faudrait, c'est voir ce dépassement pour devenir un corps vivant. Et voir ce que dit Aristote sur le corps vivant. C'est une harmonie, un mixte qui dépasse les quatre éléments, qui permet cette souplesse du vivant. Par le point de vue du feu, oui.
Est-ce que vous connaissez des savants qui parlent un peu de ça d'une façon extrinsèque à leur science, mais
sûrement que les homéopathes sont très sensibles à ça. Il y a une sensibilité aux éléments. Ça, c'est sûr. Et beaucoup de choses s'expriment fondamentalement par là. Mais s'il y a le feu à la boutique, ça fait quand même quelque chose. Mais il y a des êtres, ils le diront. Ils diront, voyez, vous n'avez plus assez de carburant, étant donné que vous brûlez beaucoup. Vous brûlez plus que vous. D'où cette sorte de corps qui n'a plus assez de combustant. Mais ils sentiront ça très fort. Alors ils vous diront, dormez plus, mangez plus, pour que la terre reprenne son poids. Ça explique certaines maladies du reste. Ceux qui ne veulent plus manger, on voit très bien qu'ils ont horreur de ça.